Toujours bien calé sur le 888. Ce ne sont pas les sirènes du port autonome que nous entendons, mais des sons bien étranges que va nous expliquer notre invité du jour, Guillaume Kosmicki, auteur de l'excellent musique électronique des avant-gardes au dance floor chez les éditions Le Mot et le Reste. Guillaume, bonjour. Et tout d'abord, merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. On a été très réceptif à cet ouvrage. On est généralement réceptif à toute la littérature qui tourne autour des musiques actuelles et notamment des musiques électroniques. Et je dois dire que on se soucie particulièrement de ce que fait Le Mot et le Reste, basé à Marseille, et qui a l'habitude de faire les choses bien. La musique électronique des avant-gardes au dance floor, c'est sorti quand? En début d'année?
C'est sorti non, un petit peu plus tard, c'est sorti fin mai, le 29 mai en fait, pour être très exact, donc tout début juin quoi en fait, ça fait 6 mois.
Donc un bouquin d'une 400aine de pages on va dire.
Exactement.
La première question qui me vient à l'esprit c'est pour écrire un tel ouvrage, combien de temps ça prend
réellement en fait hein, quand j'ai eu le plaisir d'être contacté par les éditions Le Mot et le Reste, en fait c'était il y a pile un an, c'était fin novembre 2008, et le bouquin réellement le travail a été fait en 6 mois. Mais je travaille sur le sujet, on va dire, depuis 95, dans différents cadres, et notamment dans le cadre d'études de musicologie que j'ai menées sur Aix-en-Provence. Donc c'est un peu un retour aux sources, là, d'ailleurs, merci de m'inviter, Grenouille, hein, pour revenir un peu voir le pays. Mais c'était un sujet que j'avais vraiment commencé à examiner, surtout à l'époque, hein, 94-95, c'était vraiment en France, hein, on va dire, les prémices de la techno. Il y avait déjà eu des prémices de prémices, on va dire, 89-90. 90-91 pour vraiment des tout petits milieux, mais 94-95 c'était un peu le début de la rave, le début de la free party, le début de l'engouement croissant, et moi j'avais découvert ça en 94, je commençais à c'était mes 20 ans quoi, hein, c'était le début quoi, on a tous une musique de ses 20 ans. Et dans le cadre des études de musicologie, j'ai un prof qui a eu la gentillesse et la vision hein, de me dire pourquoi vous mèneriez pas des études là-dessus, pourquoi vous mèneriez pas des recherches là-dessus. Et donc c'est vrai qu'en 95, j'ai commencé un mémoire de maîtrise sur la rave, les free parties, du point de vue de la trance, surtout des phénomènes de trance, la techno comme musique de trance.
C'était tout nouveau comme sujet, il n'y avait pas beaucoup de littérature dessus.
Carrément, exactement. En fait, il y avait eu une année avant un petit peu des études de sociologie, d'ethnologie. En musique, rien. Et c'était vraiment, c'est pour ça, c'était un peu pionnier, quoi. C'est tombé comme ça, hein, que le mouvement, c'était en son plein essor, et finalement. On était quelques jeunes étudiants à découvrir ça et finalement à pouvoir s'intéresser à ce sujet-là sur le coup de notre passion. Quoi.
Et du côté de la musicologie, on vous a pas pris pour des aliens parce que c'était tout à fait nouveau. Lorsqu'on parlait de rave en 95 ou 94, ça devait parler à pas grand monde.
Comme je te dis, j'ai eu un prof assez éclairé, c'est Jean-Marie Jacono qui bossait sur le rap déjà, qui bossait sur des trucs. Bon, lui, il y avait aucun problème avec lui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai participé à des colloques ou à des trucs comme ça, que ce soit en Finlande, que ce soit en France, que ce soit à différents endroits, j'étais un peu le sujet un petit peu hors sujet, et justement tout le monde parlait un peu de Bach, de Beethoven, etc., et c'était pas forcément extrêmement bien considéré, on va dire, on prenait un peu comme un clown. Par la suite ça a changé, mais moi j'avais déjà quitté l'université.
Ok, et donc tout ce qu'on retrouve dans ce livre, c'est ces 15 années d'expérience et de vie rapprochée du milieu, parce que à lire l'ouvrage, on a l'impression qu'il y a à la fois une vision, on va pas dire encyclopédique, mais un tout petit peu universitaire, quelque chose de très recherché, de très référencé, mais aussi quelque chose de vécu de l'intérieur.
Voilà, c'est beaucoup plus large que les quelques recherches que j'ai menées sur 10 années en université. C'est beaucoup plus large que ça, parce que moi ce que j'ai connu, ce que j'ai observé de l'intérieur, c'est le mouvement free party, surtout le mouvement rave, enfin toute la techno contemporaine. Mais c'est vrai que ce bouquin il débute J'ai pris une date un peu phare, un peu symbolique, en 1877, à la naissance de l'enregistrement. Mais il débute même un peu avant sur la question de la matière sonore, hein. On va peut-être en parler durant l'émission, mais évidemment, moi, j'ai pas vécu ça, hein. T'imagines bien, j'ai pas 130 ans. Évidemment, c'est un bouquin qui développe beaucoup plus que ce que j'ai pu vivre de l'intérieur, qui concerne juste que les dernières pages, en fait, hein, de l'ouvrage, hein. La techno, finalement, elle concerne juste les deux derniers chapitres. D'un ensemble de 8 chapitres, hein, voilà. Donc de fait, forcément, quand j'ai fait des études là-dessus, j'ai dû bosser sur les origines, sur l'histoire, sur toutes ces choses-là. Donc je me suis intéressé aussi à des choses beaucoup plus anciennes, et ça a fait partie de mon travail, mon quotidien. Mais ce que j'ai vécu de l'intérieur, évidemment, c'est surtout la rave et la free party.
Mais la préhistoire des musiques électroniques, on va peut-être commencer avec ça, et je vais te demander de présenter la première sélection que tu as choisie pour rythmer ce petit interview.
Ben, quand on a préparé un petit peu l'émission, tous les deux, je te disais que les trois thèmes qui jalonnent le bouquin, c'est très difficile de rassembler les musiques électroniques, hein, c'est très difficile. C'est un ensemble hétéroclite, c'est pas un ensemble réel, en fait. Il n'y a pas de réalité propre, en fait. C'est surtout l'aspect technologique, ça c'est vrai, et dans ce cadre-là, il y a deux branches, hein. Il y a la naissance et le développement de l'enregistrement et les nouveaux instruments électroniques, mais aussi et surtout le changement d'esthétique au XXe siècle, le fait qu'on aborde le bruit, on aborde toutes sortes d'événements sonores qu'on appelait auparavant du bruit et qu'on les insère et qu'on les considère aussi bien comme des sons musicaux, comme des événements musicaux. Et ce que j'ai choisi historiquement, et on va tous écraser une larme parce que c'est très historique et très ancien, c'est un enregistrement de futuriste, on en parle peut-être juste après, mais c'est un truc extrêmement ancien qui est enregistré en 1921 avec une qualité sonore très 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 moyenne. Évidemment, il n'y avait pas d'électricité dans l'enregistrement, il n'y avait pas de tout cela, mais en fait on entend un orchestre avec des instruments traditionnels joué par Antonio Russolo, et surtout on entend des bruiteurs qui sont des instruments créés de toutes pièces pour penser Russolo, Luigi Russolo, pouvoir reproduire tous les sons de l'univers. Et ce qu'on entend, en fait, c'est comme un voyage dans un paysage contemporain de l'époque où ça a été créé, où on entend des automobiles, des avions et des choses comme ça.
Histoire de la musique électronique avant la musique le bruit. Je vais te laisser en dire un tout petit peu plus sur cet enregistrement.
En fait, c'est le seul enregistrement d'époque qu'on ait des bruiteurs. Les bruiteurs, c'est tout un ensemble d'instruments qu'a inventé Russolo dans le courant du mouvement futuriste.
Et si on devait résumer le mouvement futuriste,
Le mouvement futuriste, c'est un truc qui a été créé en 1909 par un poète italien qui s'appelle Marinetti, qui souhaitait déranger, choquer la morale bourgeoise, et qui a balayé, rejeté très fortement tous les acquis du passé, surtout tout ce qui était art académique, art classique, en vénérant tout ce qui était de l'ordre de la modernité. Marinetti, il demandait de détourner le cours des canaux pour inonder les caveaux des musées, en fait, hein, toutes les réserves et toutes ces choses-là. Il disait qu'il préférait mille fois le décollage d'un avion à la victoire de Samothrace, enfin, toutes sortes de choses extrêmement irrévérencieuses, iconoclastes, hein, complètement. Et Luigi Russolo, dans ce cadre-là, lui, c'est un peintre à la base, hein, donc il était aussi sur cette histoire de peindre des automobiles, des choses de la modernité, des choses, avec une nouvelle inspiration, une nouvelle forme d'art. Et puis en 1913, il a inventé cette musique future futuriste qu'il a appelé le bruitisme, basé uniquement sur des bruits, et en disant, et ça c'est vraiment l'exemple qui le montre, en disant que notre oreille, elle est habituée en bruit de toutes sortes, elle est habituée à un monde moderne, à des automobiles, à des avions, à des bruits de guerre aussi, parce qu'ils sont fascinés par la guerre, ils sont pas très pacifistes d'ailleurs, hein, ils sont un peu rentre-dedans, et donc on doit en fait faire une musique qui corresponde à notre époque, qui corresponde à notre milieu, qui corresponde à notre temps. En ça d'ailleurs il a tout à fait raison, c'est que l'art de toute façon c'est une compréhension de notre monde, c'est une compréhension de notre univers. Donc quand on change de monde, quand on change de paysage, quand on change de technologie, et ben forcément l'art aussi il se développe dans cette voie là et ce qu'il y a dans cet enregistrement, il n'y a absolument pas d'électricité, il n'y a absolument pas de nouveaux instruments style synthétiseur.
C'est enregistré de quelle manière d'ailleurs?
Alors là c'est assez amusant, c'est un enregistrement acoustique, hein. C'est la manière dont on enregistrait à l'époque, c'est à dire que on rassemble un orchestre devant une espèce d'énorme entonnoir, on va dire un pavillon quoi, qu'on essaie de rallonger, et puis ça, le son c'est une vibration, alors donc ça capte la vibration, et c'est ce pavillon il finit hein, tout petit sur une membrane qui va vibrer donc en phase avec la vibration qui est produite devant le pavillon, et cette membrane elle est reliée à une aiguille qui va graver hein, dans une matière bon, qu'on veut un peu molle mais pas trop, parce qu'il faut qu'il y ait une solidité pour que ça se conserve, donc sur les disques en acétate, en cochenille, enfin en gomme laque, la cochenille sud-vietnamienne, ou enfin, on a inventé plein de matières. On a fini sur le vinyle parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus de cochenille de Sud-Vietnam parce que tout était bloqué. Donc aux États-Unis, on a inventé cette matière en pétrole. Mais voilà, c'était ça. Hein. C'était purement acoustique. Aucune électricité, parce que c'est arrivé juste un petit peu après, ça c'est un enregistrement de 1921, c'est arrivé en 1925 et on a pu par la suite eh bien, régler la qualité des différents volumes des intervenants avec un micro notamment, et puis surtout régler la rotation du disque aussi, parce que là le disque il tourne avec un ressort, c'est pas toujours très régulier, il y a des miaulements, il y a des crachotements, les fréquences sont pas très bonnes, enfin il y a beaucoup de progrès à faire évidemment, mais on devine très bien dans cet enregistrement les fameux bruiteurs, et puis ce qu'on entend c'est un orchestre qui joue des choses pas forcément très intéressantes. Quand on pense à un orchestre, quand on pense à ce qu'on écoute chez Wagner, chez Beethoven, ou même dans des grosses chansons de variété très arrangées, etc., l'orchestre il peut faire des choses 10 millions de fois plus colorées. Sauf que là, l'orchestre, il est pas là pour ça. L'orchestre, il est là, il fait des gammes, il fait des choses vraiment très très simplissimes. Faut presque l'imaginer, peut-être, je sais pas, comme un orchestre qui fait des gammes sur un kiosque à musique, dans un coin d'une ville, quelque chose qui est pas du tout considéré comme une composition musicale pour l'orchestre. C'est un bruit parmi les bruits. Voilà ce que c'est que cet orchestre.
Et l'enregistrement qui fait du bruit, donc ça correspond parfaitement aux origines et aux objectifs de cette musique.
Ah, on peut se dire que, bon, ça c'est pas de leur faute, hein, c'est pas de leur fait, mais en tout cas, ça rajoute en tout cas au charme de cette musique, au charme.
Quand on parlait de Russolo aussi, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il n'a pas fait que composer, que peindre, c'est qu'il a aussi théorisé, écrit. Théorisé, ça va, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, l'art des bruits qui est réédité aujourd'hui chez Alia, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis quelques années, c'est quelque chose qui, je pense, faut avoir lu pour avoir une vision assez globale du mouvement électronique dans son ensemble.
C'est un truc, l'art des bruits. Comme tout ce qu'ont écrit les futuristes, est un manifeste. Donc c'est rentre dedans, hein, c'est hyper provocateur. Ça dit entrons dans un de ces hôpitaux de sons anémiés, hein, en parlant d'une salle d'orchestre et entendant donc les violons, les cor- contrebasses, les orgues gémissantes. Enfin, il se moque des orchestres. Il dit qu'il préfère lui aussi des bruits de ville, etc., aux symphonies de Beethoven qu'ils ont tous aimé et goûté, mais qu'ils en sont lassés, etc. Donc c'est rentre dedans. Mais en même temps, il y a des questions esthétiques qui sont très 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 profondes. Alors ça dépasse le cadre de la provocation pure, hein. Notamment la prise en compte du paysage sonore, et puis toute une réflexion sur ce que c'est que le bruit du monde, le son du monde, et puis la notion de bruit. Fini le bruit.
amores, oh formadores, vosotros veis, vosotros escucháis, no nos abandonáis. Espíritu del cielo, Espíritu de la tierra, danos nuestra descendencia, nuestra posteridad, mientras hay días, mientras hay almas. Que numerosos sean los verdes caminos, las verdes sendas que vosotros nos dais. Tranquilas, muy tranquilas estén las tribus. Que perfectas, muy perfectas sean las tribus. Que perfecta sea la vida, la existencia que nos dais.
Électronique ne rime pas forcément avec instrumental. La voix du ténor qu'on entend là,
bariton.
Ouais. Bariton.
Ouais. En fait, là, on écoute Edgar Varèse, qui pour moi est un des plus fascinants compositeurs de musique savante du XXe siècle. Qui, est déjà un personnage très attachant, très particulier dans son investissement, qui est prêt à descendre au fond des mines pour diriger des chorales de mineurs aux États-Unis où il s'est installé. C'est un Français d'origine, il est né en Bourgogne. Il composait des œuvres plutôt romantiques, on ne sait pas trop parce qu'on les a toutes perdues. Et pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, il était pacifiste. Il avait un appartement à Berlin. Toutes ses œuvres de jeunesse ont brûlé. Et ça lui a fait donc franchir le pas de se dire qu'il allait composer radicalement différemment, et que ressentir le fait qu'il se trouvait de toute façon complètement à l'étroit dans l'instrumentarium occidental. Le problème, c'est que la technologie ne suivait pas la rapidité de son esprit, on va dire, ne suivait pas la volonté qu'il avait de tester, de contrôler des microsons, des choses comme ça. Cette œuvre-là est de 1934, celle-là. Okay. Mais en 1917, il quitte la France pour les États-Unis et il change radicalement sa manière de composer. Et comme vous l'entendez là, il compose de la matière sonore. Et il compose de la matière sonore, avec ce qu'il a sous la main. C'est-à-dire, cette voix de baryton qui chante le chant du Popol Vuh, le livre des morts mayas, mais il chante aussi, il joue aussi avec des percussions, des cuivres, des choses comme ça. Mais dans tout ce qu'il y a de plus bruyant, des masses sonores, il dit toujours qu'il distingue pas, pour lui il n'y a pas de différence entre bruit et son, il n'y a aucune raison de faire une différence comme ça entre les deux. Et dans cet enregistrement, si vous avez bien écouté, je pense que les auditeurs l'ont bien entendu, il y a quand même de l'électronique, parce que dès qu'un nouvel instrument apparaît, dès que quelque chose arrive sur la scène, et dans les années 20 il y en a eu quelques-uns comme le Theremin, comme l'onde Martenot, etc., il saute sur l'occasion. Et là il y a deux Theremin sur cet enregistrement, ça lui permet de faire des sons suraigu, beaucoup plus aigu que la petite flûte d'orchestre, le piccolo, là, qui est le son le plus aigu de l'orchestre, très très perçant, très très strident. Là, il va beaucoup, beaucoup, là, on l'entend sur le fond, là, on a beaucoup, beaucoup plus haut que ça, et puis ça le fascine. Et c'est quelqu'un qui a inséré sa première œuvre du nouveau genre en 1921, c'est Amérique au pluriel, il a mis la sirène des pompiers de New York dessus. Et il veut faire du bruit, il veut faire des choses, et c'est un personnage terriblement attachant dans le sens où à 75 ans, 70 ans bien passés en tout cas, 75 ans encore, il a continué. Il est allé dans les studios dans les années 50 pour couper des tout petits bouts de bande de manière extrêmement fastidieuse. C'était les techniques de musique concrète, de musique électronique, enfin toutes ces choses-là, il les a découvertes très 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 tard et il s'est astreint à rester des heures en studio pour faire des choses et il a quand même réussi à déclencher des scandales monumentaux en France, hein, Désert en 54, il a fait participé au pavillon Philips sur la foire universelle de Bruxelles, l'exposition universelle de Bruxelles, et au pavillon Philips, il a fait le premier concert de cette taille-là sur un orchestre de 300 haut-parleurs. C'était la première fois en 58 qu'on voyait un truc comme ça, à 75 ans passés. Donc c'est un gars extrêmement attachant. Et surtout, ce qui est terrible chez lui, c'est qu'il a fait de la musique de matière sonore, on va peut-être réécouter juste le début là dans un tout petit instant, la musique avec de la matière sonore qu'il a contrôlée de manière organique, mais avec ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire avec des instruments traditionnels, avec des instruments d'orchestre acoustique. Et si on réécoute juste le début de cette œuvre, il y a juste un petit quelque chose que je voudrais comparer avec de la musique électroacoustique, justement beaucoup plus tardive. C'est juste sur le début, il y a, vous allez entendre des sons très très brefs, que plus tard Pierre Schaeffer appellera des impulsions, très très brefs, joués par un piano, joués par des trompettes ou autres. Et ces sons très brefs sont associés dans l'écriture de la partition avec des sons beaucoup plus longs, qu'on appellerait des trames par la suite. Et le fait que le piano attaque une toute petite impulsion suivie d'une note longue de trompette, on a l'impression qu'il y a un rapport organique entre les deux, comme si on choquait par exemple une cloche, et que le choc de la cloche c'était la petite impulsion du piano, et la résonance de la cloche c'était la longueur, la trame de la trompette. Et donc c'est une composition organique qui ne dépend plus du tout des hauteurs mais qui dépend d'une matière, et on entend ça très très bien, et on va le comparer avec un Parmigiani qui fait ça avec des synthétiseurs quelques 50 ans après. Alors on peut écouter le début juste. Voilà, et ça on peut le comparer avec une œuvre de Parmigiani de 1971, c'est dans une œuvre qui s'appelle De Natura Sonorum, et cette œuvre elle s'appelle Incidence Résonance. Incidence Résonance, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est des incidences, des impulsions justement, qui vont donner des résonances, des trames, et on a l'impression que ces trames à nouveau donnent des nouvelles impulsions. C'est exactement ce que fait Varèse avec des instruments en 1934, sauf que là on est en 1971 avec des synthétiseurs et des enregistrements et des choses comme ça.
Musique et matière, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton discours.
Ah oui, ouais, là on a franchi une étape suivante avec l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que on est toujours dans cette histoire de matière, effectivement, dans cette histoire d'intégrer le bruit, enfin toutes sortes de choses qu'on considérait comme du bruit, mais comme de la musique. Là, on a dépassé dans la musique occidentale, jusqu'alors tout était dirigé quasiment par la hauteur, par la mélodie, hein, par les successions de hauteurs, et là on se retrouve dans un truc qui n'a plus aucun rapport avec ce genre de configuration, de structuration. On structure là par la matière, par le son, sauf que là l'étape suivante, c'est que là on est passé vraiment dans une musique très technologique. Là on a franchi la barre des années 50, où après quelques balbutiements, on va dire, on a entendu chez Varese un peu des thérémines, on a entendu des différentes choses comme ça, mais après quelques balbutiements, on est passé à des courants musicaux qui là se sont dirigés soit vers la construction de musique à partir de l'enregistrement, qui normalement était considéré comme quelque chose qui fixait la musique pour qu'on la réécoute, pour qu'on puisse entendre ça chez soi ou à la radio ou ailleurs, mais qui est devenu là une manière de faire de la musique, c'est-à-dire le son posé, le son fixé, quelle que soit son origine, quelle que soit la manière dont il a été fait, et bien a été pris comme tel sur un disque, sur une bande magnétique, sur enfin toutes sortes de supports d'enregistrement pour de nouveau réaliser de la musique. C'est ce qu'on vient d'entendre là avec Parmigiani. Et puis l'autre aspect aussi, c'est les lutheries électroniques là qui vont pas arrêter de se développer et pas arrêter de devenir de plus en plus performantes, hein, et évidemment. Et dans ce genre de courant, dans ce genre de qu'on appelle électroacoustique, hein, depuis la fin des années 50, et bien il y a eu deux branches. Il y a eu les musiques concrètes en France, basées surtout sur l'enregistrement, sur le micro, et puis les musiques électroniques en Allemagne, à Cologne, puis un petit peu partout.
Quand on dit
ailleurs.
Musique concrète, c'est le fait d'intervenir sur la matière sonore même. C'est-à-dire sur la bande, sur des choses comme ça.
Il y a ça, exactement. Mais ça veut dire aussi que il compare ça en fait, Pierre Schaeffer qui a inventé ça pour le citer, il compare ça en fait à la musique qu'il appelle abstraite, qui est celle que à la base part d'une conception de l'imagination sans aucun son. Quand on imagine la musique, on n'a pas de son. Quand on parle dans la musique concrète, on a un son à la base qu'on enregistre, qu'on prend un micro et on l'enregistre. Donc on part sur du concret. Ensuite, deuxième étape dans la musique abstraite, on écrit une partition. Il y a toujours pas de son, il y a toujours pas de musique, c'est toujours abstrait. Pour la musique concrète, on enregistre et on fixe sur une bande, donc il y a toujours du concret. Et troisième étape de la musique abstraite, c'est que cette partition, on la donne à un interprète. Et là, on a du son. Seulement là. Là seulement, on a du concret. Alors que dans la musique concrète, là, on va réaliser le mixage, le montage, la composition, et on a du concret d'un bout à l'autre de l'échelle de la conception de la musique.
Et on en vient aussi à une forme d'unicité, c'est-à-dire que le même concepteur est le réalisateur et l'enregistreur et... Et non plus une délégation de tâches qu'il y avait dans la musique auparavant avec l'ingénieur du son, avec l'interprète, avec le compositeur, avec tout ça.
Alors, qu'est-ce que je pourrais te répondre là-dessus? C'est que je dirais même que c'est peut-être plus large que ça, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu des techniciens, il y a eu des gens, il y a eu toutes sortes de choses comme ça. C'est vrai que c'est tout à fait, là t'as tout à fait raison de souligner ce point-là, faut opposer ça à mon avis beaucoup plus à une vision de la musique avant l'enregistrement, avant qu'on puisse imaginer de le fixer, où il fallait passer par une interprétation musicale, par lire une partition, faire une performance, faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là il y a pas de performance. Là, il y a une réalisation loin des yeux, loin de tout le monde, pendant des heures très très fastidieuses, avec un travail de fourmi, hein, vraiment, c'est des heures de studio. Il faut s'imaginer les techniques à l'époque, hein, les hautes technologies de l'époque, c'était de couper des petits bouts de bande, les coller, faire des boucles avec un cercle de bande comme ça, plus ou moins long, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de long, qu'on tendait avec un pied de micro, etc. Bon, c'était très très fastidieux, et finalement, le résultat sonore est fixé lui aussi, à nouveau. Et donc, le concert ne passe pas par une performance. Le concert, c'est un résultat fixé. On passera plus tard à la performance, hein, quand les technologies vont évoluer, mais à l'époque, c'était plutôt ça. Moi, je ferais plutôt cette séparation avec une autre musique que le côté je fais tout. Parce que finalement, il peut très bien arriver qu'un compositeur fasse tout aussi d'un bout à l'autre, mais qu'il joue son œuvre sur un piano. Ça aussi, il fait tout, hein, d'un bout à l'autre. Hein, ça, c'est sûr, avant l'enregistrement, je veux dire.
Oui.
Voilà. Et donc, dans l'idée de cette musique concrète, justement, là, j'ai préparé un petit extrait, peut-être. C'est un moment opportun pour l'écouter, où on entend, c'est d'une œuvre de Pierre-Henri. Pierre-Henri, on le connaît, surtout dans le milieu, l'œuvre pour laquelle il est le plus populaire, c'est la messe pour le temps présent. Mais on va dire que c'est une œuvre qui est loin, très très loin d'être représentative de l'ensemble de son œuvre.
Peut-être son œuvre la plus pop et la plus accessible.
C'est ça, il a volontairement demandé à Michel Colombier, donc, qui était arrangeur de Gainsbourg, arrangeur de plein de chanteurs de variété, il lui a demandé des airs les plus discothèques possibles, hein, en 68. Et il lui a
pourtant,
demandé...
ça sonne comme une discothèque en 98. Hein.
Parce qu'il a plaqué de manière très très artificielle des sons là-dessus. C'était pour une chorégraphie de Béjart, et la chorégraphie de Béjart, c'était une idée de dire que tout le monde était que l'humanité était un tout et que les noirs, les blancs, les races pouvaient c'était très années 60 hein,
utopique.
Pouvaient danser ensemble, et donc ils montraient musique savante avec musique populaire. C'était un peu la même chose, c'était un peu le choc comme ça qui était volontairement recherché. Par contre, l'œuvre que j'ai choisie là, le petit extrait, c'est une œuvre qui est terrifiante d'ailleurs, c'est l'Apocalypse de Jean, qui est une œuvre qui dure très très longtemps, pas loin de 2 heures, et sur laquelle on a le texte de l'Apocalypse de Jean, donc qui termine la Bible, hein, qui achève comme ça la Bible, le Nouveau Testament, et qui est dit par la voix de Pierre-Henri. Là, on écoute un passage vraiment vraiment terrifiant. Moi, j'ai un souvenir. Alors, ce moment-là, on l'écoutait avec des potes étudiants, avec Zed qui fait de la musique aussi, avec Manu, et on était dans une chambre dans noir, allongé comme ça, on allait dans les rêves, on allait dans les free parties, on avait une certaine forme d'émotion que vraiment tout le monde connaît, enfin, tous ceux qui ont vécu ça connaissent bien, c'est cette euphorie, cet engouement, cette communion hein, devant le son, cette orgie aussi, hein, festive devant le son, ça c'était quelque chose, mais là ce genre d'émotion qu'on avait avec l'œuvre qu'on va écouter, c'était absolument pas la même chose, et pourtant c'est bien là qu'on voit que dans l'électronique il y a des familles très 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 variées, c'est bien de la musique aussi qu'on peut classer dans l'électronique.
Toujours en compagnie de notre invité Guillaume Kosmicki, auteur de musiques électroniques des avant-gardes au dance floor, aux éditions Le Mot et Le Reste. Pierre-Henri, donc, dans un extrait pas forcément très connu, ça doit certainement être la première fois qu'on diffuse ça sur les ondes du 888.
Ah bah tant mieux. L'Apocalypse de Jean. Ouais. Ben Pierre-Henri, voilà, il fait partie de cette école concrète, on va dire que bon, il s'est séparé de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer qui est le premier à avoir utilisé l'enregistrement vraiment pour en faire un genre à part entière. Mais Pierre Schaeffer, c'est plus un théoricien. C'est plus quelqu'un qui va même écrire un solfège de l'objet sonore, qui va même écrire tout un vocabulaire extrêmement pointu pour définir telle ou telle qualité du son, tel ou tel aspect. Avec Pierre-Henri, lui, c'est un compositeur. C'est quelqu'un qui touche à tout. C'est quelqu'un qui, on en a parlé, la messe pour le temps présent, voilà, qui touche même à la pop, qui touche même, voilà, qui essaye plein de choses, qui est toujours dans ce genre-là. Et c'est quelqu'un, avec cette œuvre phare, hein, la messe pour le temps présent, bah, a réussi, c'est un de ceux qui a réussi de temps en temps, on a ça dans l'histoire, à faire un point de jonction avec un autre univers, un univers qui est parallèle à ces musiques savantes, qui touche pas forcément toujours les mêmes milieux, qui est celui de la musique plus populaire, on va dire.
Est-ce qu'il y a d'autres moments phares dans la musique où les recherches d'avant-garde ont imprégné les musiques populaires ?
On va dire que ça se passe précisément dans ces années 60. Là, on est à la fin des années 60, mais ça se passe à un moment où, finalement, c'est quoi des musiques électroniques ? C'est des musiques qui reposent sur des technologies électroniques. Et il se trouve que ces technologies, dans un premier temps, elles sont toujours développées de manière confinée, en laboratoire, ou disponibles uniquement dans les studios de radio, dernier cri, enfin, les studios de radio, il n'y en a pas beaucoup aussi à l'époque, il faut dire. Et donc, il faut passer au studio de Cologne, à la WDR, au studio de la RTF, Radio-Télévision Française, ou dans d'autres endroits comme ça, pour toucher, pour avoir accès à cette haute technologie. Donc, c'est pas réservé à tout le monde, il faut avoir des subventions, des aides, des choses comme ça. Il faut être dans un milieu aussi. Et le truc, c'est que rapidement, hein, c'est assez long au début, mais de plus en plus vite, hein, d'ailleurs jusqu'à nos jours l'écart se réduit de plus en plus, ces technologies passent dans le domaine du grand public. Et précisément, c'est dans les années 60 qu'on assiste aux premières ventes de synthétiseurs pour le grand public. Les premiers, c'est aux États-Unis, c'est Moog. Justement, on a parlé du Theremin tout à l'heure. Ben, Moog, il avait d'ailleurs le brevet pour le Theremin. Il a reconstruit dans ces années 60 des Theremin. Il a construit des Moog de son nom. Et puis en 70, il a construit le Mini Moog, qui est le gros succès commercial. 13 000 exemplaires pour l'époque, c'était terrible. Hein, deuxième synthétiseur de l'histoire. Puis plein de synthés qui vont, plein de marques de synthés qui vont s'engouffrer dans la brèche. Harp, Oberheim, puis après Roland, Yamaha, les Japonais. Enfin, ça va être ce passage-là, ce passage à la technologie. Pour l'enregistrement, on peut dire que ça date même d'avant. C'est-à-dire que, en même temps que Schaeffer et Henry faisaient leurs essais dans les studios, bah, en même temps, sur le rock'n'roll, sur la soul music, sur la funk, etc., bah, il y avait des gens dans les studios qui bossaient sur les Beatles, sur plein de groupes très connus. Il y avait des gens, ou moins connus, il y avait des gens qui bossaient sur la qualité du son, sur des sons. Ça, c'est assez terrible de se l'imaginer. À partir des années 50, quasiment, on ne peut plus écouter en concert ce qu'on entend sur un disque. Ça, c'est tout à fait éloquent et capital. C'est que le travail pour le disque, la musique pour le disque, la puissance sonore qu'il y a sur le disque, les effets sonores qu'il y a sur le disque, bah, sont des choses qui ne peuvent marcher que sur le support.
Quand tu parles de ça, on pense évidemment à Phil Spector, on pense aussi à Joe Meek,
par exemple,
et certainement à George Martin, sans qui les Beatles
exactement
n'auraient pas poussé le degré de la perfection aussi loin.
Tout à fait, et puis même avant avec Elvis, et puis même avant, enfin voilà, tout à fait, c'est exactement ce genre de personnages, hein, qui ont marqué comme ça ce travail du son, hein, ce travail des effets sonores obtenus comme ça sur le support. Et donc aussi bien dans le niveau de justement que dans le niveau de la lutherie. Donc je disais, le passage se fait naturellement par le biais de la technologie, par le biais du travail sur la technologie, à partir du moment où la technologie est à portée de main. Et on peut dire, on peut le citer, et ça c'est à mon avis très important, ce qui se passe en Jamaïque, pourtant très pauvre, sans quasiment de moyens, c'est un petit peu la même chose. Même au même moment, on va inventer le dub, on va inventer le jeu sur le disque. Au même moment, ben même à partir de la fin des années 40, eh bien il y a des disc-jockeys qui vont travailler sur des disques. La seule chose qu'ils ont à portée de main, la seule chose qui soit pas trop chère pour animer des fêtes dans des quartiers pauvres de Kingston ou ailleurs, dans des petits villages, et le disque sera le support instrumental nouveau pour chanter, pour faire chanter les gens, pour éventuellement changer, passer de l'un à l'autre pour remixer, donc revoir un petit peu. Et même avec 3 francs 6 sous, je veux dire, avec des platines qui devaient être vraiment de piètre qualité, on peut travailler, on peut commencer à travailler sur l'enregistrement lui-même.
On est donc toujours dans la musique concrète, là on intervient sur la matière même.
Dans la musique basée sur l'enregistrement, dans une nouvelle modalité d'écriture, alors vraiment une nouvelle modalité de penser de la musique, aussi bien on peut écrire de la musique, aussi bien on peut la transmettre de manière orale, là c'est de la musique basée sur une modalité qui est propre au XXe siècle, fixé, enregistré, comme jamais on a pu utiliser dans l'humanité.
On parlait de l'imprégnation des musiques populaires par l'électronique. Le prochain extrait l'illustre à merveille. C'est un morceau que tout le monde connaît.
Exactement.
Certainement des albums les plus vendus dans l'histoire des musiques populaires.
Ouais. Ils font partie des passeurs, hein. C'est Pink Floyd évidemment, il y en a d'autres des passeurs, mais bon, ceux-là c'est assez terrible. Et ce qu'il y a de très très remarquable sur ce morceau-là, vraiment, c'est par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est que c'est un morceau qui n'est absolument pas basé sur la hauteur. Il se trouve que le synthétiseur qu'on va entendre joue une boucle, et cette boucle évidemment n'est pas jouée en continu par le clavier, hein, du groupe, absolument pas. C'est un séquenceur qui fait ça, donc un nouveau appareillage qui permet, comme son nom l'indique, d'enregistrer des toutes petites séquences, parce qu'il n'y a pas trop de mémoire, donc c'est que des séquences au début, et cette séquence se joue en boucle. Et qu'est-ce qui fait l'interprète qui a les mains libres? Eh bien, il transforme la matière sonore, et c'est toute l'essence de ce morceau.
Un extrait du Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Ouais,
c'est On the Run.
On the Run. Là, la boucle est liée. Hein. Il suffit de la traiter un peu autrement et on a de la techno d'aujourd'hui. Quoi.
C'est ça qui est terrible. C'est que ce geste-là, qui est fait au début des années 70, c'est le même geste qui est réalisé dans les années 80, c'est le même geste qui est réalisé dans les années 90, c'est le même geste que vous faites maintenant si vous achetez un synthé avec un séquenceur. C'est un truc qui est tellement naturel, on s'amuse pendant des heures à enregistrer ça dans sa chambre. Dès qu'on a un petit boîte à rythme, un petit quelque chose, on fait une boucle et puis on fait tourner le son, on fait changer la matière et finalement les notes qui sont dedans, la hauteur, enfin ce qui est joué, c'est pas ça qui est important, c'est la transformation du son et on y passe des heures. C'est la même chose, c'est le même geste que fait Pink Floyd.
Est-ce que c'est une vérité transversale à toutes les musiques électroniques, ce côté ludique, j'allais dire de jouer avec la matière, de jouer avec le son?
Non, c'est une réalité de la musique électronique. Même là, tu touches de près à un sujet qui peut-être fait même qui reflète bien la lutte qu'il peut y avoir entre des institutions à Paris comme le GRM et l'IRCAM. Voilà, le GRM c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus expérimental, ça enregistre des choses, ça travaille ça. L'IRCAM c'est un système pensé à la base et ça reste de la musique abstraite justement, telle que la définissait Schaeffer, un système pensé, imaginé, qui est ensuite appliqué à un modèle sonore, même si c'est enregistré, même si c'est travaillé sur synthétiseur, le système précède la composition. Voilà. Donc c'est peut-être moins ludique dans cet aspect-là. Voilà. Moins empirique en tout cas. Voilà.
Ouais. On parlait de pop musique avec Pink Floyd et il y avait du côté du continent un pays où s'est développé ces musiques à travers notamment les musiques populaires et on appelait ça le krautrock ou rock progressif. Et je pense notamment à l'Allemagne avec des groupes comme Neu, comme Cannes, comme Kraftwerk.
Ouais.
Qui ont, on va pas dire très tôt, mais dès le départ, intégré un processus de création qui était entre guillemets nouveau.
Ouais, ils ont été en fait dans la lignée, de tout un ensemble de groupes en anglais notamment, qui étaient sur l'acid rock, hein, qui étaient sur des sons acides, des sons de musique rock qui étaient censés reproduire les effets expérimenté par le LSD.
On parle de Cream, on parle de choses comme ça.
Ouais, par exemple, exactement. On parle même de Pink Floyd hein, aussi, ouais. Hein, dans le genre, dans les fins des années 60. Et puis, qui ont continué sur cette voie-là. Et cette voie-là, évidemment, est une voie qui explore le son et la matière sonore, forcément. Et de fait, ils ont intégré hein, tout naturellement ces fameuses technologies. Donc, hein, Kraftwerk, évidemment, plus que les autres, évidemment. Mais ils ont travaillé sur le son aussi du studio. Ils ont travaillé sur la manière de gérer cette matière sonore sur des plages beaucoup beaucoup plus longues que la simple chanson. Ça c'est certain hein, que c'est quelque chose d'important. Et puis on a parlé du dub de la Jamaïque et de toutes ces musiques là hein, juste un petit peu avant. Il y a quelque chose de très important qui émerge aux États-Unis et qui lui va aussi être un courant de fond, c'est le hip-hop, qui provient vraiment des manières de faire de la Jamaïque, qui provient de ces manières de faire du DJ. C'est DJ Cooler qui vient de Jamaïque, qui est arrivé, il avait 12 ans, qui avait vu ses sound systems en Jamaïque et qui s'installe dans le Bronx hein, à New York et qui va lui et puis suivi par d'autres, par Grandmaster Flash, par Afrika Bambaataa exactement, qui va utiliser le disque, utiliser ce qu'ils ont sous la main, c'est les quartiers pauvres encore une fois, hein, pour créer des musiques de toutes pièces. C'est les fameux breakbeats, ils vont emprunter ça au funk de James Brown, ils vont emprunter ça à des tas de groupes de soul music, de funk, etc. Le passage d'introduction à la batterie, le passage central de batterie, etc. Ça va leur servir de matière, hein, c'est le phénomène est connu maintenant, de matière pour fabriquer leur boucle, hein, leur breakbeat. Peut-être on peut écouter un extrait, là on avait mis de côté juste un tout petit extrait de Incredible Cannibal Bongo Band. On écoute une boucle en début, justement rythmique. C'est un groupe qui précède le hip-hop, suivi de la musique, exactement, et suivi par un extrait d'un mix enregistré au début des années 80 par Grandmaster Flash, mais qui reflète exactement ce qui se passait dans les block parties, hein, vraiment dans ces fêtes de rue où la platine sert de construction sonore, d'instrument sonore, exactement.
Apache, le classique des Shadows revisité à la sauce percussion Incredible Bongo Band 1972, Michael Winners, un des classiques, un des hymnes b-boy, et on va écouter juste après son utilisation par ce qui est certainement le premier mix enregistré ou un des premiers mix enregistrés.
Le premier mix enregistré.
Il s'agit du premier DJ virtuose, le maître Grandmaster Flash.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is back, flash is back, flash is back. Flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no two.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Voilà, Grandmaster Flash, très bel extrait, on devrait l'écouter dans toutes les écoles de DJ, je pense. Voilà, quelque chose de très artisanal, de très musical. Et lorsqu'on avait dit à Grandmaster Flash très tôt qu'on allait enregistrer son mix pour en faire des disques et le vendre, et lui ne comprenait pas qu'on pouvait faire des disques de DJ jouant des disques, il ne comprenait pas le processus. C'est arrivé par la suite et d'autres gens ont fait, on va pas dire fortune, mais une belle carrière en vendant des disques qui utilisaient des disques.
Voilà.
Ouais. Mais à la différence des productions électroniques, même celles qui flirtaient avec la pop musique, on est là dans une approche vraiment artisanale, j'allais dire.
Exactement.
On a deux platines et deux disques vinyles.
C'est ça. Et cette approche artisanale, en fait, même très très vite, y compris pour le hip-hop, elle va basculer, on est dans les années 80, elle va basculer dans une utilisation de plus en plus poussée, de technologies de plus en plus abouties, parce que le hip-hop, très très rapidement, dès 82, 83, va utiliser aussi toutes sortes de petites machines qui deviennent de moins en moins chères et qui sont vendues au grand public, dans les boîtes à rythme, les petites, ce qu'on appelle les basslines, vendues par Roland, les japonais, voilà, TB-303, qui fabriquent des lignes de basse, les petites choses sont vendues pour des groupes de rock, mais qui n'ont pas du tout un son de basse vraiment très convaincant pour les musiciens, et toutes ces petites machines assemblées, les prix de plus en plus bas, de plus en plus tirés vers le bas, donnent naissance, alors là c'est quelque chose qui est très important et qui marque nos années actuelles, au Home Studio. En 85, c'est les premiers logiciels d'aide à la composition, c'est les Atari qui arrivent, c'est toutes ces choses là et le Home Studio, c'est studio à la maison, c'est le début en fait de l'individu qui avec un petit
omnipotent
budget, voilà, avec un petit budget peut partir de rien du tout, pas de son, vraiment une lutherie à créer, un instrument, un son à créer, etc. Assembler tout ça, devenir chef d'orchestre, devenir compositeur et même presque en arriver à un produit fini. D'abord, c'est les 4 pistes à cassette et puis dans les années 90, c'est les graveurs de CD, c'est tout ça.
Ouais, aujourd'hui, avec Internet, on en arrive
exactement
au produit fini.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment les années 80 qui ont amené ça et on en est les héritiers encore en 2009. Hein. On peut peut-être entendre justement là dans l'idée, justement, ces petites machines, ces petits bricolages, le côté très cheap et très assemblage facile de machine qui est l'Acid House aux États-Unis à Chicago, hein, qui est tout à fait un exemple même de cette utilisation de home studio.
Ce qui est intéressant pour revenir à l'invention du breakbeat, c'est que quelque part on en vient à l'essence même ou à une des finalités même de la musique, qui est la danse et la danse par le rythme. C'est-à-dire que quelque part le DJ ne va retenir d'un morceau non pas tous les accessoires mélodiques, mais vraiment la trame rythmique rythmique d'un morceau, celle qui est faite pour danser, celle qui est faite pour sauter, c'est ce qu'on retrouve, c'est une vérité qu'on va retrouver dans la techno. C'est-à-dire on épure la musique de tous les accessoires et on n'en garde que ce qui nous fait bouger, autrement dit la pulsation primaire.
Il y a la pulsation et il y a la matière sonore, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs dans les musiques savantes ou dans les musiques populaires, c'est, on peut rapprocher un truc, c'est exactement ça qui se passe, c'est que la musique... s'est débarrassé de la hauteur toute puissante et de la mélodie dans les années dans le 20e siècle et elle a accentué sur tout le reste et donc dans le reste il y a le timbre, il y a le rythme et tout ça.
Et jouissive, est-ce que c'est comme ça qu'on peut définir l'acid house?
Ah, l'acid house, c'est une musique de fête. Hein. Là, on est de la musique festive pure et dure. Hein. On a tout à fait. Hein. Ça, c'est ça. Et sur machine électronique, ça marche tout aussi bien que sur d'autres types d'instruments. Ça, c'est évident. Hein. Voilà, c'est clair. Comme on a pu faire des musiques festives avec des instruments acoustiques, c'est le cas. Finalement, ce qui se passe hein, entre cette fin des années 80 et l'acid house et les musiques les plus abouties hein, d'aujourd'hui, qui
tu trouves ça plus abouti aujourd'hui, justement?
Ouais, au niveau d'un aboutissement technologique, d'une finesse du son, parce que là, on va dire la technique est simple quand même, hein, l'aspect est simple. Ce qui se passe vraiment, c'est que l'innovation dans des petits laboratoires, dans des petits studios, dans des endroits très très confinés, qui mettaient jusqu'à 30 ans à passer dans le domaine du grand public, ben aujourd'hui, le délai s'est réduit énormément. Et dans les années 90, on a inventé toutes sortes de synthèses, la synthèse croisée, le morphing, la synthèse granulaire, qui sont des synthèses basées vraiment sur des ordinateurs, des choses sur l'enregistrement numérique. Et ben cette synthèse granulaire qui normalement dans les années 50 aurait mis peut-être 30 ans ou 40 ans à passer dans le domaine du grand public, et ben là elle met 5 ans, 10 ans, même pas, de moins en moins, ça se réduit à quelques semaines, le logiciel circule tout de suite et on entend des choses comme Jason Gosch là qu'on va écouter avec un son extrêmement granulaire, extrêmement pointu, une des technologies qui sont utilisées aussi bien dans les laboratoires de musique savante quasiment dans le même temps.
On a commencé cet entretien, on était à la fin du 19e, on est là tout près d'aujourd'hui. Merci encore Guillaume Kopsmicki, je le rappelle, auteur de Musique électronique des avant-gardes au dance floor aux éditions marseillaises Le Mot et le Reste. Et je conseille vivement à tous les auditeurs, même ceux qui ont déjà lu d'autres livres comme Le Modulation, ouvrage collectif sorti chez Alia, ou le magnifique Global Techno qui était sorti aux éditions du Camion Blanc. de foncer les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes dans cet ouvrage où notamment la préhistoire de ces musiques-là est parfaitement bien décrite et bien écrite. C'est-à-dire, c'est un plaisir de le lire. C'est à la fois simple, précis et concis. Cette émission aurait pu durer 28 heures.
C'est possible.
Tellement tu as des choses à dire et d'extraits aussi à nous faire écouter. Mais on va se retrouver par ailleurs pour une sélection de 1 heure de musique électronique qui,
très
pareil,
volontiers.
va balayer le 20e siècle comme ça. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et je te laisse le mot de la fin. Les musiques aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire en 2009 et presque 2010,
ouais.
Parce que ton bouquin s'arrête en 2005, je crois, ou quelque chose
comme
ça.
Non, en 2009, j'en parle, je pense, dans la conclusion, un petit peu.
Je ne suis pas allé jusqu'au bout, tu vois.
Évidemment, tout le monde le sait, on est dans une période de transition, on est dans une période de mutation, on le vit à plein pot. Mais la mutation, pour moi, elle semble s'accélérer, là, mais elle a déjà débuté à la fin du 19e siècle. À partir du moment où il y a eu l'enregistrement, c'était forcé qu'on passe sur autre chose. L'histoire du disque qui s'effondre, l'histoire, tout ça, ça, ce sont pour moi que des anecdotes. En fait, il y a quelque chose d'autre qui se passe autour de cela, c'est qu'on n'a jamais écouté autant de musique qu'à l'heure actuelle. Jamais. Aucun homme n'a pu écouter autant de musique qu'à l'heure actuelle. Et puis, toutes les musiques, on n'a jamais eu un tel brassage. Avant, on avait un langage et un seul, et tout le monde comprenait le langage musical. Aujourd'hui, on comprend pas la musique de son voisin, et on comprend pas les musiques forcément qu'on écoute, et forcément ça entraîne une mutation, forcément il y a quelque chose d'important qui se prépare dans ce domaine-là, et c'est à observer. On est dans une période extrêmement intéressante, à mon avis, comme il y en a quelques-unes dans l'histoire de la musique, déjà en Occident par exemple, mais ça vaut le coup de prêter un œil et une oreille.
On te réinvitera dans quelques années quand il se sera passé beaucoup beaucoup de choses. En tout cas, encore merci d'être venu.
Merci Grenouille.
Vous restez branchés sur le 888, voilà, pour vous, et surtout jetez une oreille au programme du 888 sur le net, où on va vous annoncer quand est-ce que sera rediffusée cette petite sélection de musique électronique tout à fait historique et atypique.